en tout cas au niveau de
ça dépend de quel type de véhicule hein, on parle, hein, Johan.
En moyenne, c'est 40 000 km.
En moyenne.
Et puis de quel pays ? Parce qu'en France, ça a peut-être un peu plus de sens grâce à notre nucléaire, mais par exemple, en Allemagne, c'est tout au charbon hein, pour faire l'électricité.
C'est quand même favorable. Lisez les études, c'est quand même favorable.
Il y a plein d'études contradictoires, justement, je vous le dis.
Johan, restez avec nous. Johan, restez avec nous. Dans le respect de chacun, évidemment, dans le respect du débat, Pierre Chasseret nous rejoint. Bonjour, Pierre Chasseret.
Salut, bonjour à toute l'équipe. Merci. Bonjour, Yoann.
Bonjour.
Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 42 millions d'automobilistes. Pierre, je ne sais pas pourquoi, et encore une fois, avec tout le respect qu'on se doit dans nos débats dans Estelle Midi, j'ai un peu l'impression que Yoann, il veut se taper Pierre Chasseret.
Donc, oui,
je vous redonne l'occasion. Pierre, quand Yoann nous dit qu'il y a beaucoup de choses fausses, d'idées reçues sur l'électrique, qu'est-ce que tu lui réponds ?
Bah, que malheureusement, Johan, je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. Maintenant, il y a un point où tu te trompes, c'est que j'ai testé hein, les véhicules électriques et à part sur des bornes ultra rapides, qui sont quand même très minoritaires et très chères, il faut le préciser, à part sur ce type de bornes, la recharge, c'est très long. C'est potentiellement trop long pour beaucoup de personnes. J'ai entendu dans ton discours, Johan, j'ai entendu que tu disais que la voiture, elle était électrique, elle était éligible largement pour 85% des Français, parce que c'était le pourcentage de Français qui faisait moins de 50 bornes. Oui, ok, pourquoi pas. Sauf qu'il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait moins de 50 bornes tous les jours qu'on fait pas un petit peu plus parfois. Et que là, on se retrouve avec des véhicules qui sont absolument pas aujourd'hui des véhicules adaptés aux familles. Donc, dire que le véhicule électrique, c'est pas bien, non. J'ai mon voisin juste en face de moi, garé devant chez moi, qui a une voiture électrique, il trouve ça très bien. Mais elle ne correspond pas à tout le monde. Et puis, Johan, je vais insister sur un point parce que c'est important. Il y a environ 40% des Français, je crois, de mémoire, qui ne disposent pas de place de stationnement chez
c'est
eux.
C'est ça le problème.
Et donc, ces gens-là seront dans l'obligation, s'ils ont besoin de leur véhicule électrique, soit de recharger au boulot, mais au bout d'un moment, les employeurs vont dire stop à la mascarade, il y a trop de véhicules électriques, soit de recharger sur des bornes extérieures qui sont très chères. Donc en fait, pour tous ces gens qui ne disposent pas d'une place de stationnement qui leur permet d'apposer une borne, alors soyons très clairs, il n'y aura pas de véhicule électrique.
Johan.
Oui. Alors sur le réseau, je suis assez d'accord. Hein, il faut continuer à développer. Il n'y a pas de problème. Il y a des villes qui le font. Alors c'est à l'étranger. J'ai plus en tête le nom de la ville, mais sur tous les poteaux, en fait, vous avez une prise. Donc ça peut être une source de d'amélioration. Ensuite, j'aimerais répondre à Pierre sur la partie. Il se peut que on fasse plus de 50 km par jour. Oui, d'accord. Sauf que vous connaissez la maladie du diesel. La maladie du diesel, c'est quand les gens ils utilisent trop leur véhicule diesel en ville. Mais pourtant, ils le font. Et c'est bizarre, hein, ils ont des coûts d'entretien énormes. Après, leur véhicule ne marche plus, etc. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est pas pour une fois. Moi, je vais en vacances avec mon véhicule électrique. Hein, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. C'est pas pour une fois. Et au pire, si on a peur, ça coûte moins cher en dette au niveau écologique et en porte-monnaie de louer un véhicule une fois. Si on a peur vraiment de ne pas avoir à la recharge en fait.
Je redonne la parole à Pierre Chasseret. Pierre Chasseret. Bon, on entend les arguments de Johan, etc. Mais malgré tout, Pierre Chasseret, tu le disais tout à l'heure, on a déjà eu l'occasion de débattre de ce sujet ensemble, évidemment, et c'est un sujet sur lequel on va de plus en plus débattre, puisqu'on y va. On y va. Il y a tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il y a les doutes sur le bénéfice écologique, sur la véritable efficacité de l'électrique pour le quotidien des Français. Il y a le coût. Là, on n'en a pas trop parlé, mais ce n'est pas résolu. Une voiture électrique, ça coûte 50% plus cher en moyenne qu'une voiture thermique. C'est inabordable pour une immense majorité de Français. Et malgré tout, Pierre, le gouvernement le dit toutes les semaines quasiment, on y va, on fonce, on va vers le tout électrique.
Alors, on va faire simple. Hein. Quand le gouvernement dit on y va, ce sera du 100% électrique, écoutez-moi bien, hein. Non. Voilà. Parce que la réponse, c'est pas le tout essence, la réponse, c'est pas le tout éthanol, ou le tout GPL, ou le tout électrique. Ou le tout diesel, par exemple. La solution, c'est un mix énergétique. C'est ça qu'il faut entendre. C'est que
pourquoi le gouvernement ne dit pas ça?
Mais parce que, je sais pas, moi, s'ils sont pas bons, ils veulent faire écolo, sauver la planète. C'est le nouveau sport national. Moi, quand j'étais petit, c'était Capitaine Flap qui sauvait la planète. Aujourd'hui, c'est le gouvernement, tu vois. Donc, on a évolué, on a changé de personnage, mais on veut tous être dans le politiquement correct et la bienséance. Dès qu'on a plus d'arguments, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ben, c'est pour la planète. Et hop, ça justifie tout. Donc, arrêtons un petit peu les bêtises.
Est-ce que c'est que ça, Pierre? Ou, voilà, moi, je mets les pieds. Non, mais je mets les pieds dans le plat aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un lobby automobile qui a voulu se lancer dans l'électrique,
mais non.
Qui aujourd'hui se lance dans l'électrique et qui veut y aller à corps perdu?
Non, parce qu'en plus, pour être très franc, hein, nos constructeurs français, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais je vais être très clair. Mmh. On est à la ramasse sur l'électrique dans le rapport coût qualité du produit par rapport à nos concurrents chinois qui vont nous éclater, parce que de toute façon les batteries elles sont 100% chinoises, elles le seront toujours. Arrêtons de dire n'importe quoi. Donc non, nos constructeurs français n'avaient pas d'intérêt à aller sur ce lobby du tout électrique. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est le plus important, c'est que à chaque automobiliste correspond une voiture qui est différente, et on doit choisir sa voiture par rapport à ses besoins, par rapport à ses moyens. Si, Johan, tu as les moyens d'avoir un véhicule électrique, que ce soit en offre de leasing, location longue durée ou peu importe, ou en achat brut, eh bien tant mieux si ce véhicule correspond à tes besoins et que tu en es ravi. C'est super, mais n'imposons pas ce véhicule à d'autres qui ne peuvent ni se l'acheter ou ni même le recharger. Et inversement, que ceux qui roulent à l'essence n'en font pas un totem en disant « jamais j'irai vers l'électrique ». L'électrique, c'est bien pour certains, c'est pas bien pour d'autres. Voilà. C'est comme, tu sais, c'est sur le choix d'un frigo. Bah, quand t'es une petite famille, tu peux te permettre un plus petit. Puis quand t'es une grande famille, bah, au bout d'un moment, t'as un grand frigo. Bah, là, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut choisir son véhicule par rapport à ses besoins et ses moyens. Exactement. Parce que quoi qu'il arrive, ça sera toujours notre budget qui dictera notre retour.
Merci Pierre d'avoir été avec nous. Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes plutôt. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci également à Johan qui nous appelait depuis le département des Vosges, partisan de l'électrique. Et à présent, on va du côté de Lyon retrouver Clément, c'est ça ?
C'est bien ça, bonjour.
Bonjour Clément, bonjour. Bienvenue bonjour, Clément. Dans SL Midi sur RMC, RMC Story. Je le disais, on est du côté de Lyon, on est où exactement ?
Eh ben, on est précisément sur Caluire-et-Cuire.
Très bien, vous faites quoi dans la vie ?
Très bientôt responsable financement automobile dans un groupe automobile.
Ah, très bien. Voilà. Donc, il va falloir sortir les dossiers parce que des demandes de financement, il va y en avoir avec l'électrique.
Ah bah oui, hein. Déjà, il y en a eu pas mal avec le leasing social.
Ouais.
Avec un coup d'arrêt très très rapide, hein, puisque ça a été victime de son succès.
Hein, et ça ne reprendrait qu'en 2025.
On est d'accord. Après, avec des éligibilités un peu diverses. Mais moi, je voulais partager mon expérience, effectivement, concernant l'utilisation d'un véhicule électrique. Mmh. D'accord. Il y a du pour et du contre. En fait, c'est comme vous l'avez dit il y a très, très peu de temps. On est sur une utilisation, il faut vraiment, en fait, c'est un achat vraiment très, très, très réfléchi. Un peu moins quand on est en zone urbaine, puisqu'on va avoir des bornes à droite, à gauche. Quand on commence à aller dans le rural, c'est très, très compliqué. Très compliqué. Même si on a le gouvernement qui est enclin à vouloir absolument passer sur de l'électrique, quand on a des clients qui passent en concession et qu'on essaye de l'argumenter, même par A plus B, qu'ils peuvent faire aller sur de l'électrique avec les puissances de défaut, etc. C'est un argumentaire vraiment très difficile. Et en fait, c'est un choix cornélien pour le client. Et même, pour le vendeur automobile, parce qu'à un moment donné, on est en train de leur vendre des véhicules avec des autonomies par moment un peu faibles, d'accord ? Mmh. Et on va être là à calculer combien de kilomètres ils vont faire par an. Ça va être un choix très drastique, très difficile. Et puis en plus, ça a un coût.
Justement, j'allais vous poser la question, Clément. Vous l'avez dit, oui. Dans quelques jours, vous serez responsable financement automobile dans un grand groupe.
Oui.
Si tout le monde, en tout cas une bonne partie des Français, se mettent à aller dans le sens de ce que veut le gouvernement et se mettent à vouloir de l'électrique, vu le prix d'une voiture électrique aujourd'hui, ça va coincer au bout d'un moment, non ? Au niveau financement ?
Si on part sur un contrat locatif ou de type LLD, en fonction du véhicule et avec l'autonomie, etc., on avoisine les 350 minimum, hein, je dis bien 350-400 euros mensuels.
Ce qui est impossible pour un grand nombre de foyers.
Ouais, tout à fait. C'est quand même difficile. Après, il y a des conditions d'octroi de crédit, etc. Enfin bon, ça c'est autre chose.
Ou alors, ça va devenir la voiture va encore devenir un budget hyper conséquent pour les foyers, pour les ménages.
après le loyer, c'est le second pôle. Hein. Et clairement, tout le monde ne peut pas se permettre de faire ce genre d'achat. C'est sûr. C'est sûr. Donc, on est sur quand même un certain coût. Alors, bien évidemment, s'il retrouve... si on arrive à charger son véhicule à domicile ou si on a l'employeur qui est doté de bornes. Ouais. Par contre, je souhaite bonne chance aux personnes qui souhaitent recharger leur véhicule sur autoroute. C'est un sacré coup. Sacré coup.
Ah, c'est énorme.
Pour ma part, quand j'ai rechargé, en plus, il n'y avait pas de prise Shademo, donc j'ai les trois prises avec une recharge rapide. Malheur, il n'y a pas ce genre de borne sur l'autoroute et tout est parce que quand je suis allé, par exemple, pour l'anecdote, me rendant sur un déplacement professionnel, j'ai été obligé d'attendre 1h30 pour récupérer de la charge et encore pour récupérer, on va dire, allez, 60 km d'autonomie sur une.
C'est un enfer.
Ah bah si on part en vacances, pour ma part, je prends pas de véhicule électrique. Ouais. Je suis obligé d'avoir un véhicule thermique.
Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. Clément qui nous appelait au 32-16. Je vais rapidement donner la parole à Fabrice. Fabrice qui nous appelle lui depuis le Var. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement est arc-bout et il veut qu'on passe au tout électrique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Dans un petit village comme moi, j'habite de 1000 habitants à peu près.
On est à Artigues, c'est ça?
Non, je suis à Mazingues.
Mazingues, d'accord, très bien.
Donc du coup, pour tirer un câble, il faut 200 mètres. J'ai pas de place de parking à côté de chez moi. Je fais comment pour charger un véhicule électrique?
Il n'y a pas de solution pour le moment, en tout cas.
Voilà, donc passer au tout électrique, c'est pas possible.
Benjamin.
Ouais, pour aller dans le même sens que ces derniers témoignages, moi j'ai le compagnon de ma belle-fille qui a eu une voiture de fonction en tant qu'alternant. Et donc il a dû aller la chercher à Nice. Ouais. Et c'est une voiture électrique. Donc pour revenir de Nice à Paris, c'était l'Odyssée d'Astérix. Il a mis 15 heures.
Évidemment que pour les grands déplacements, c'est vraiment problématique. Encore une fois, mais les grands déplacements, moi je vois que quand j'ai besoin d'aller en province de façon très rapide, c'est beaucoup moins cher à l'année de louer. Et on parlait tout à l'heure de 350 euros à 450 euros par mois. Attention, vous faites une sacrée économie de carburant. Parce que si vous branchez chez vous...
Est-ce que ça compense les calculs
largement.
Fabrice, ça compense l'achat du véhicule, l'entretien du véhicule, les réparations du véhicule, les charges.
Il n'y a pas de réparation.
Ouais, bah,
excusez-moi, moi je suis en agriculture. Les tracteurs électriques, ça arrive, mais ça coûte très cher. Les camions de livraison électriques, ça n'existe pas.
Mais évidemment,
comment
bien
on fait
sûr.
Tout ça? Tout électrique, c'est pas possible.
Ah, mais on est d'accord, le tout électrique est impossible.
Les poids lourds d'abord en électrique, et après on se rabat sur les gens.
Le tout électrique est impossible, ça, on est bien d'accord.
Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Fabrice qui nous appelait depuis le Var. On vous a posé la question automobile, le gouvernement persiste sur le tout électrique. Est-ce que vous êtes prêts à y passer? Alors là, il y a du boulot pour convaincre.
Oui, refus franc et massif. Vous répondez non à 91%. Oui à 9% seulement. Dernière réflexion de Gilles qui dit insister coûte que coûte sur le tout électrique. C'est suicidaire. L'État sera-t-il capable de fournir cette énergie à tout le monde? L'avenir, c'est l'hybride.
Sur la question.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le zapping RMC. On commence avec Charles Matin. Nos PME sont-elles en danger? On le sait depuis des mois maintenant. L'explosion des prix de l'énergie ont mis à mal nos petites et moyennes entreprises. Les factures flambent. La situation est de plus en plus intenable pour nombre d'entre elles. Écoutez le témoignage de Romain Le Goaster. Il est le patron d'une entreprise de bois. Sa facture a été multipliée par 10. Facture énergétique multipliée par 10 en un an.
J'ai vu ma facture être multipliée par 10 sur le premier semestre 2023, ce qui a créé donc artificiellement une dette considérable sur mon entreprise. Et donc cette dette importante, qui est de l'ordre de 120 000 euros, alors que 120 000 euros, c'était à peu près ce que je consommais en électricité sur 2 ans. Ah oui. Là, c'était simplement ce que m'a facturé EDF en 6 mois. En fait, on n'est pas tombé d'accord avec EDF sur un échéancier, puisqu'il me demandait de rembourser ça avant la fin de l'année, ce que j'étais absolument incapable de faire. La menace est venue passer de menace à exécution avec un SMS reçu par Enedis m'informant que ils avaient reçu l'ordre de couper l'arrivée d'électricité de mon usine.
Situation, on appelle à imaginer lorsqu'on n'est pas entrepreneur ou proche de quelqu'un qui dirige une PME, mais c'est enfin situation. Il y a des gens qui sont en train de
dépérir.
Oui, et puis de voir leur vie bouleversée, ouais. Détruite. Enfin, ouais. Les mots sont forts, mais c'est vrai. À cause de cette flambée des prix d'énergie.
Très clairement. Thierry. Alors, le problème, c'est qu'on ne payait pas l'énergie à son juste prix avant, ouais. Et qu'on a pris de plein fouet une crise qui. Alors, en plus, ça s'est rajouté auprès de certaines PME avec des difficultés post-Covid où ils avaient été soutenus pendant le Covid alors qu'ils auraient dû se casser la gueule avant, en fait, en quelque sorte.
Ce qu'on dit beaucoup de commerçants, c'est-à-dire qu'ils ont pris la crise Covid en pleine face, ils ont réussi. Pour un certain nombre d'entre eux, à garder la tête hors de l'eau.
Et l'énergie leur a donné le coup de grâce.
Exactement.
Absolument.
Ouais. C'était le
donc,
coup de trop,
ouais. Je vois par exemple, autour de moi, des gens qui sont dans la boulangerie, par exemple. Ouais. La boulangerie avec les fours, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Ils ont eu leur coup, qui ont explosé. Et on ne peut pas vendre deux fois la baguette, deux fois plus cher, alors qu'on paye l'énergie jusqu'à 10 fois plus cher. Ouais. Donc on a un vrai problème. Je pense que le maillage des PME aujourd'hui est tel en France, parce qu'il faut rappeler, c'est 80-95% de des entreprises, ouais, qui sont des PME-PMI. Ouais. Il faut absolument que le gouvernement s'intéresse à des baisses de charges, à des aides pour ouais, permettre à ces entreprises de surmonter cette... Et puis, on le disait en plus hors micro, le nucléaire, allons-y à fond, parce que c'est une énergie qu'on sait contrôler, qu'on sait maîtriser, on a pris du retard, on est en train de le rattraper pour avoir une énergie qui soit moins chère. Mais avant toute cette crise, on payait l'énergie pas assez cher. Il faut bien s'intégrer, ouais, ça.
Juliette.
Oui, je suis d'accord avec Thierry. Évidemment, moi, je suis pour la baisse de charges et non pas les aides, parce qu'on a encore vu. On vient de dire que le quoi qu'il en coûte a déréglé le marché et a fait subsister des entreprises qui n'avaient pas lieu de subsister. Et là, on dit il faudrait des aides. Donc, non, pas d'aides. Il faut évidemment que le prix de l'énergie baisse, et ça ne passera que par le nucléaire. On est en train de rattraper nos bêtises passées et c'est très bien.
Mais heureusement qu'on a cet avantage par rapport à d'autres pays.
Ah oui, tout à fait, heureusement. Et on a failli.
Certains autres pays, je pense notamment à l'Allemagne, se retrouvent dans une situation mais dramatique.
Catastrophique, dramatique. Et oui, je les plains. Et puis, il y a d'autres choses qui pèsent aussi, évidemment, sur ces entreprises. C'est aussi de toute façon l'augmentation de l'inflation, quoi, des matières premières. Par exemple, les boulangers, c'est vraiment un bon exemple. Parce que pour eux, tout a augmenté, quoi. Effectivement, l'énergie, le beurre, la farine, c'est catastrophique pour certaines entreprises.
Oui, non, je bien évidemment, la situation elle est scandaleuse, mais je pense que ça pose la question de la répartition des aides publiques, parce que moi je le dis souvent, en fait, dans les aides publiques aux entreprises, la part aux grands groupes est exorbitante. Le crédit impôt recherche, on peut rappeler quand même qu'au moment du chômage partiel, Carrefour avait mis 82% de sa main-d'œuvre, de ses salariés, en chômage partiel. Ils en avaient vraiment pas besoin. Là, en ce moment, il y a Sanofi, une entreprise publique qui menace de supprimer 3000 postes, qui se bat fraude publique alors que les dividendes qui sont versés sont considérables. Eh bien moi, ça fait longtemps que je dis, mais dans la répartition des aides publiques, est-ce qu'on ne peut pas changer justement le ratio et donner justement, aider beaucoup plus ces petits artisans qui sont les premiers employeurs de France, bien plus que les grands groupes. Mais moi, ça, c'est une position que certains avancent depuis longtemps, mais que peu écoutent et que peu appliquent.
Charles Matin, doit-on réglementer les frais de carte bancaire chez nos commerçants? C'est en tout cas dans les tuyaux du ministère des Finances qui veut encadrer ces frais au niveau européen. Et pour cause, les frais pour un commerçant lors d'un paiement par carte bancaire ont augmenté de quasiment 50% en 4 ans. Le détail avec Emmanuel Le Chypre.
Tout part, selon nos confrères des Échos, d'une étude publiée en début d'année par la Direction générale de la concurrence européenne, selon laquelle la moyenne des frais pour les paiements par carte bancaire à débit immédiat est passée de 0,27% du montant de la transaction en 2018 à 0,44% en 2022. Donc, en gros, de 27 à 44 centimes pour une transaction de 100 euros. Ça fait tout de même une augmentation de presque 50%. C'est compliqué d'y voir clair et c'est pour ça que Bercy demande à ce que soit discuté au niveau européen un encadrement de ces frais bancaires. Alors, les grands réseaux mettent en avant une augmentation de leurs investissements pour lutter contre la fraude. Les commerçants, eux, disent bah, en fait, les règles de facturation sont incompréhensibles.
Est-ce que les banques se gavent ?
Ah bah oui.
Ah, c'est au niveau européen. Hein.
Oui, je pense que oui. Non, ce qui est pervers, c'est que ce sont comme ça, on a l'impression que 0,27%, 0,44%, c'est rien. Sauf que l'autre jour, j'ai assisté à une scène justement chez mon boulanger où quelqu'un voulait payer une toute petite somme et la personne dit non parce qu'on a des frais et sur les petites sommes, c'est pas rentable parce que sur un euro. Bah,
si tu payes ta baguette à un euro en carte bancaire avec le commerçant et ça lui coûte 20 centimes, c'est sûr.
Voilà. Que donc je pense qu'il y a vraiment de la part des banques une hypocrisie. Et puis ces genres de frais cachés qu'on voit pas. Alors le commerçant lui, il les voit parce qu'il ouais. voit bien ce qui se passe. On parlait des frais tout à l'heure. Mais pour les particuliers, il y a plein de frais bancaires comme ça qui ont augmenté de manière un peu insidieuse sans que personne ne voit. Et les banques se portent quand même très très bien en France. On va pas se mentir.
Mais c'est Juliette. Directement relié aux banques. Je crois qu'il y avait un réseau européen au niveau des TPE. Je sais pas, moi, il me semble qu'effectivement, je trouve ça absolument aberrant pour les commerçants.
Bah là, c'est clairement, ce sont des frais bancaires qui sont imposés par les grands réseaux.
Hein, voilà, alors qu'on essaye évidemment de généraliser hein, le paiement sans contact et le moins en moins de liquide, donc ça n'a aucun sens évidemment de se tourner vers des frais comme ça bancaires exorbitants.
Benjamin.
Bah, c'est exactement le même genre de situation qu'il y a quelques années avec les opérateurs téléphoniques et avec des ouais. pratiques commerciales inacceptables. Et il a fallu que les États à l'échelle européenne s'entendent pour taper du poing sur la table et qu'on en vienne à des pratiques beaucoup plus des bonnes pratiques. C'est exactement la même chose.
Si on qu'est-ce, laisse les qu'est-ce qu'ils ça, ont c'est pris le, comme c'est argent le capitalisme, hein. les opérateurs pendant des années et des années. Hein.
Mais bien sûr.
Alors on a oublié aujourd'hui, mais
pour le coup, l'Europe. Ouais. Oui, non, mais ça, pour le coup, c'est le moment. Où l'acteur européen il sait être utile. Et rappelons qu'à l'époque, les opérateurs téléphoniques racontaient du baratin sur les nécessités absolues et impérieuses pour justement justifier ces pratiques. C'est la même
notamment
chose.
La couverture du réseau, alors qu'ils n'en sont toujours pas à un réseau 100%.
Exactement. Donc là, c'est le même baratin. Les banques se baffrent et ça ne date pas d'hier. Donc, il est temps de mettre fin à ces pratiques.
Apolline Matin, faut-il renforcer la sécurité dans les commissariats de police ? Hier soir, il était aux alentours de 22h, quand deux policiers ont été grièvement blessés dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris. Interpellé peu de temps auparavant, un individu est parvenu à s'emparer de l'arme d'un des deux fonctionnaires et à faire feu sur ces deux policiers. William Maury du syndicat Police Alliance nous donne des nouvelles ce matin.
Alors, rapidement, hein, parce qu'on a eu des nouvelles d'un de nos collègues qui a été opéré avec succès cette nuit. Donc lui, son état de santé est toujours toujours regardé par les médecins. Hein, voilà, il reste sous surveillance, étroite surveillance. Et quant au second, l'opération a duré plusieurs heures cette nuit. Et là, par contre, on n'a pas eu d'informations complémentaires. On sait que son pronostic vital est toujours engagé, que la blessure, elle est gravissime. Hein.
On imagine mal, Thierry Moreau, le sentiment des policiers aujourd'hui lorsqu'on se dit que l'extrême violence peut pénétrer au sein même du commissariat.
Ça montre une chose, cet événement, ce fait divers, même le mot est faible, c'est que le métier de maintien de l'ordre, que ce soit la gendarme ou la police, est un métier dangereux. Que ce que disait Rudy Mana tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites interventions, et il n'y a pas de... C'est à chaque fois, risque sa vie.
Ça peut survenir à n'importe quel moment.
Voilà, et pas forcément là où on vient. Et alors, ça met en plus l'accent sur un truc très important, c'est que quelqu'un qu'on met en garde à vue pour violence conjugale peut être très dangereux. Très, très dangereux aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de petites interventions. Le métier que font, et il faut leur rendre hommage, les forces de l'ordre aujourd'hui en France, est un métier très difficile, et que plein soutien à eux, parce que ça doit pas être facile tous les jours.
Benjamin.
Oui, d'autant que
alors ils sont pas très bien payés.
C'est une violence conjugale, mais particulièrement extrême, parce que attaque au cutter. Hein,
L'individu dont on parle qui a ouvert le feu sur ces deux policiers venait d'être interpellé pour avoir agressé effectivement une femme dans la rue à coup de cutter.
Une attaque au cutter, hein, c'est vraiment pas anecdotique. Et donc là, bien évidemment, c'est évident. Moi, je le dis souvent à la CGT, on syndique les policiers et qui sont des fonctionnaires. Et on rentre pas dans un discours systématisant vis-à-vis des fonctionnaires de police. C'est un métier dangereux, c'est un métier risqué. Et effectivement, à tout moment, vous pouvez avoir cette violence qui vous explose à la tronche. Le simple.
Ne pas rentrer chez toi le soir.
Et ne pas rentrer chez toi le soir. Et le moindre moment d'inattention peut être fatal. Donc total soutien aux fonctionnaires de police et on leur souhaite le meilleur rétablissement possible, puisque donc ce matin encore le pronostic vital était engagé.
Là, la scène est rarissime. La scène est quand même rarissime, hein, de se faire voler son âme de service pour qu'elle se retourne contre vous. C'est quand même pas des choses qu'on voit beaucoup. Il y a peut-être eu un petit vice de procédure là-dedans, parce que c'est pas normal que ça. Vous avez raison de rappeler que c'est un métier extrêmement dangereux, qu'il faut être sur ses gardes à tout moment et tout peut basculer d'une minute à l'autre.
Apolline Matin, ça fait 40 ans qu'on se pose la question. 40 ans. Croyez-vous à une victoire de la France à l'Eurovision? Demain soir, c'est la finale de l'Eurovision. À Malmö, en Suède, la France, représentée par Slimane, arriverait cinquième, d'après les bookmakers. Détail des favoris avec Sébastien Krebs.
Oui, je vais vous dire qui sont les favoris. Il y a un pays qui, de fait, a fait un bond spectaculaire hier soir chez les bookmakers. C'est Israël. La chanteuse Eden Golan, dont la présence est contestée par des manifestants pro-palestiniens, a intégré le top 3. Elle fait partie maintenant des prétendantes à la victoire. Alors, il y a Slimane dans tout ça. Bah, Slimane, il est donné 5e chez les bookmakers. Bah, c'est pas mal. Il a gagné une place hier soir après son passage sur scène en demi-finale. Slimane qui mise sur l'émotion et la performance vocale avec une partie qu'il chantera a cappella.
Ah oui, bon, goût les couleurs.
C'est pas cool, c'est pas du tout représentatif de ce que j'ai écouté ce matin.
C'est vraiment
bien chanté. La chanson est très jolie, elle est bien interprétée. J'ai aimé toute la performance.
Ça t'intéresse Je suis obligée, je tombe dessus. Moi,
j'aime quand même, j'aime la musique, j'aime les télécrochets, tout ce qui est autour du chant, j'adore.
C'est hypnotique.
Et voilà. Et je trouve que c'était vraiment bien réalisé. L'extrait n'a pas du tout rendu justice à la performance. Ça n'a pas montré l'émotion qu'il y met, etc. Donc ne vous fiez pas à ça. La chanson est très jolie, c'est bien fait. Je pense qu'on a une chance.
Tu aimes l'Eurovision, ça t'intéresse l'Eurovision.
Pas du tout, ça m'intéresse pas du tout.
Si,
je suis
complètement passionné.
Tu vas regarder demain soir.
Arrête de mentir.
Je vais peut-être. Ah, mais c'est demain?
Oui.
Ah bah d'accord.
Et on passe en avant.
On passe en avant dernier.
Je souhaite
bonne chance à
Slimane.
Bon, on
saura que Juliette Briens adore l'Eurovision. Benjamin, ça t'intéresse ou pas?
Alors moi, l'Eurovision en tant que telle ne m'intéresse peu. Par contre, l'attachement quand même de pas mal de Français pour l'Eurovision, ça m'interpelle toujours. Et je pense que je vais quand même y jeter un coup d'œil parce que avec ce qui se passe autour. Non, moi je suis pas vraiment. Je ne la suis jamais.
Oui.
Le dernier souvenir que j'ai, c'était Joël Ursule, c'est ça qu'il avait
Gainsbourg. Ouais.
Voilà. Donc c'est le dernier souvenir que j'ai. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai regardé. Mais autrement là, ce qui se passe avec tout ce qui se passe avec Israël, les manifestations, le succès de la chanteuse hier, tout ceci fait que je vais peut-être regarder le résultat parce que politiquement
politiquement, ça a un certain intérêt, je pense.
Thierry Moreau, journaliste au Média, l'Eurovision, tu adores.
Je l'ai beaucoup commenté quand j'étais à Télé 7 Jours. On organisait des trucs à l'époque qui étaient des trucs sur Twitter, en live tweetant la compétition, parce qu'on pouvait se permettre de dire des trucs sur les réseaux sociaux qu'on ne pouvait pas se permettre de dire sur une antenne YouTube.
Ça marche toujours, l'Eurovision, en termes d'audience.
Ça fonctionne toujours très, très bien. Je pense que cette année, plus on a de chance, plus les gens regardent. Donc ça fonctionne plutôt bien. Les demi-finales ont permis d'avoir des bons scores d'audience. Ce que je voudrais dire sur le a cappella, vous avez dit que c'était pas le meilleur endroit, mais n'oubliez jamais qu'une chose, Marie-Myriam, lorsqu'elle gagne en 77, pour la première fois, les 8 premières mesures de sa chanson sont des mesures a cappella. Et c'est sans doute ce qui a été la bascule, parce qu'elle commence a cappella. 8 mesures, ça ne s'était jamais fait, ça ne s'est jamais refait depuis. Le a cappella est quelquefois dans les morceaux, mais pas au début. Et c'est sans doute ce qui lui a permis de gagner. Donc je dis, on a une petite chance.
Alors, oui.
Et la prestation vraiment de Slimane est exceptionnelle en termes de mise en scène, de travail et aussi de compétition avant, parce qu'il a fait la tournée des capitales européennes pour vendre son truc, parce qu'il faut faire campagne. Et il l'a fait. Et donc, moi, j'espère qu'on a des chances.
Inch'Allah, demain, on gagne.
Et je regarde.
Mais quel intérêt,
on passe en avant-dernier.
Juliette.
Quel est l'intérêt pour Slimane d'accepter la candidature à
le fait de représenter la France,
d'accord, mais
et de chanter une chanson sur l'amour et la paix, et je pense que ça lui est très attaché,
d'accord.
C'est
une sacrée question.
Parce qu'on a l'impression qu'on parle toujours perdant. Alors
non, mais s'il est la deuxième. Enfin, il y en a eu beaucoup avant. Il y en a eu d'autres qui ont gagné avant Marie-Myriam. Mais la dernière, c'était Marie-Myriam, 77. Ouais, très clairement, s'il est le nouveau gagnant de l'Eurovision, ça va être une sacrée carte de visite. Il n'en a pas besoin pour vendre des 10, ça je te l'accorde. Mais c'est très prestigieux. Mais tu sais, France Gall l'a fait. Enfin, plein de gens l'ont fait.
Marie-Myriam, allez.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, ce soir, 19h-20h30.
France 2, le retour du plus grand show musical au monde, l'Eurovision. Cette année, Slimane portera les couleurs de la France lors de la grande finale de l'Eurovision avec sa chanson « Mon amour ». Ce soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. 7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos jeux à zéro médaille d'or.
L'esprit Coubertin, une comédie réjouissante et assumée.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tchut-tchut. Moi j'entends tchut-tchut. Je pleure, je crois.
Avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco.
L'esprit Coubertin, actuellement au cinéma.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Salut Solène. Salut. Et aujourd'hui, on parle à nouveau de la SFAM, un dossier qu'on suit et que vous suivez depuis 2 ans maintenant.
Ouais, la SFAM, c'est aujourd'hui Indexia, cette entreprise qui assurait des téléphones ou des ordinateurs, des contrats de quelques euros, mais qui très vite coûtait beaucoup plus cher, des prélèvements abusifs. Donc, nous l'avons révélé il y a 2 semaines, une partie d'Indexia est désormais en liquidation judiciaire. Ça signifie qu'une branche de la société doit arrêter ses activités. Alors imaginez notre surprise quand on a découvert que les prélèvements, ils continuent. C'est Christophe, un très très fidèle auditeur, qui nous a alerté. Son contrat est pourtant résilié.
J'avais des prélèvements quasiment tous les 2-3 jours. Au mois de février, il m'avait fait 2 prélèvements. Au mois de mars, 8. Et au mois d'avril, 4. Au total, je crois que je dois tourner entre 450 et 500 euros de prélèvements. Ça fout la rage. Ils sont en liquidation, c'est triste. Mais nous, on n'y est pour rien, quoi.
Ouais, nous, car Christophe est Loin d'être le seul, Emma Léotti, une avocate qui défend 600 clients, wow, nous confirme au moins une dizaine d'entre eux est concernée par ces prélèvements. Et évidemment, on n'a pas le chiffre exact.
Et en enquêtant, vous avez découvert d'autres choses.
Ouais, le PDG d'Indexia a demandé à plusieurs de ses employés de continuer de travailler. Sauf qu'en fait, à partir du moment où une entreprise est liquidée, les dirigeants perdent le contrôle au profit du liquidateur. Le PDG n'avait donc pas le droit de faire cette demande en son nom propre. Et puis, surtout, écoutez bien, il ne reste que 107 000 euros sur les comptes d'Indexia. Alors là, comme ça, ça ne parle pas forcément. Pour nous, ça paraît beaucoup, sauf qu'on parle d'une grosse entreprise qui a quand même brassé plutôt des millions que des milliers.
C'est des caissons vides, quoi.
Voilà, et Indexia, en fait, est en cessation de paiement depuis juin 2023, ce qui veut dire que le PDG aurait dû signaler les difficultés de l'entreprise au tribunal il y a un an, ce qu'il n'a pas fait. Ouais. Et ça, personne ne le savait, ce sont des élus CSE du groupe qui ont découvert ça en fait il y a une semaine lors d'une réunion avec le liquidateur.
Et comment se défend Indexia ?
On a tenté de les joindre sans succès depuis la liquidation le 24 avril, plus de son, plus d'image. Bon, en même temps, ils ont quelques petites choses à régler. On l'a appris hier, notamment le parquet de Paris demande la liquidation total d'Indexia cette fois. Ouais, si la décision est confirmée le 22 mai, c'est pas seulement une partie du groupe comme c'est le cas maintenant qui sera fermée, c'est vraiment l'ensemble des filières qui seront à l'arrêt. On parle notamment d'Upside, de Sellside, de Serena, il y en a beaucoup des filières chez Indexia. Une décision qui laisserait sur le carreau plus de 3000 employés.
Ouais, je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce dossier. Et si on est victime comme Christophe, qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh ben, vous pouvez contacter le liquidateur pour récupérer votre argent. Alors, je préfère être claire, dans ce genre de situation, là en plus on vient de vous parler des comptes, il y a quand même peu de chances que vous puissiez récupérer votre argent, mais il faut quand même le tenter. Et surtout, ça peut servir pour les procès à venir, donc n'hésitez absolument pas. On vous laisse toute la marche à suivre sur rmc.fr.
Merci beaucoup, Solène, merci beaucoup.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, les week-ends de 9h30 à midi, les GG passent le relais aux grandes gueules du sport.
2h30 d'échanges, d'analyses, d'opinions avec une équipe de champions.
Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Cyril Marais et bien d'autres.
Autour de Jean-Christophe Drouet. Les grandes gueules du sport. Les samedis et dimanches, désormais 9h30 midi sur RMC.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos Jeux à zéro médaille d'or.
L'esprit Coubertin, une comédie réjouissante et assumée.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tut-tut. Moi j'entends tut-tut. Je pleure, je crois.
Avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco.
L'esprit Coubertin, actuellement au cinéma.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi, comme tous les jours, de midi à 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Benjamin Hamar, enseignant, syndicaliste, Thierry Moreau, journaliste média, et puis Juliette Briens, journaliste à l'Incorrect.
RMC, Estelle Midi.
La flambée du jour, flambée des prix des produits sucrés dans nos supermarchés, alors que la hausse globale ralenti, Coca, Kinder et autres Nutella explosent, Alfred.
Oui, avec à chaque fois des prix symboliques dépassés pour ces produits phares. Pour la première fois, la bouteille d'un litre 75 de Coca-Cola dépasse les 2 euros. Le pot d'un kilo de Nutella a franchi, lui, la barre des 6 euros, des hausses comprises entre 1 et 3% d'après nos confrères du Parisien. C'est en fait le résultat des négociations commerciales qui se sont tenues cet hiver entre fournisseurs et distributeurs. Les prix ont été revus à la hausse à cause notamment de la flambée du prix du sucre à l'automne. Les biscuits et les barres chocolatées ne sont pas épargnés. Le cours du cacao a lui aussi augmenté. Pour le reste, Rémi, ce sont quand même des bonnes nouvelles puisque le prix des pâtes, du riz ou encore du papier toilette baisse fortement.
Flambée des prix des produits sucrés, bonne ou mauvaise nouvelle, vous nous appelez au 3216. Benjamin Hamar.
Une hausse de prix alimentaire, c'est jamais une bonne nouvelle. On va pas raconter d'histoire, on va pas nous ressortir la petite musique, mais c'est pas bon pour la santé.
Bah, si. Hein ?
Non mais que ce soit pas bon pour la santé, c'est pas la question.
Ah bon ?
En l'occurrence, il y a des tas de familles qui, pour les goûter, pour les enfants, pour leur plaisir parfois épisodique, achètent une bouteille de Coca et un pot de Nutella. Et c'est donc bien évidemment encore une inflation alimentaire. C'est scandaleux. Alors on va pas nous sortir encore. Voilà, au moment, on sait que pendant une époque tout était lié à la guerre en Ukraine. Donc là, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ça a à voir avec la négociation entre les grands distributeurs et les producteurs de l'agroalimentaire. Ce sont encore les mêmes qui se baffrent. Et je veux dire, à la fin,
sachant que là en plus on parle de grandes marques extrêmement populaires, Coca,
oui, Kinder, des produits d'appel,
voilà,
des
Kinder, produits d'appel. Nutella, qui peuvent facilement tordre le bras à la grande distribution.
Exactement, exactement. Donc là, la question, enfin, la question bonne ou mauvaise nouvelle, c'est comme si à un moment on disait, oui, bon bah les prix du carburant explosent, c'est bon pour le climat. On va arrêter de se foutre du monde. Les gens sont libres de choisir ce qu'ils payent et ce qu'ils achètent. Qu'ils fassent attention à ne pas manger trop sucré, c'est très bien s'ils le décident, pour des raisons diététiques, pas parce que les portefeuilles les contraint, pas parce qu'ils soient contraints par le portefeuille. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Et bien évidemment, la question encore une fois du pouvoir de certains grands industriels et du pas de deux entre eux et les grands distributeurs, ça suffit, c'est un scandale. Et ça signifie donc que si on additionne entre les prix de l'électricité et les prix du carburant qui continuent à augmenter et certains produits alimentaires qui continuent de flamber, les questions de pouvoir d'achat et les problèmes de pouvoir d'achat, la thématique de pouvoir d'achat, elle a de beaux jours devant elle.
Flambée des prix des produits sucrés, bonne ou mauvaise nouvelle, vous nous appelez au 3216, Juliette.
Moi, je suis évidemment d'accord avec Benjamin pour dire que c'est absolument pas une bonne nouvelle, que c'est une mauvaise nouvelle, quoi qu'il en soit, une flambée des prix. Je suis pas d'accord, encore une fois, sur la responsabilité toujours encore des grands groupes. Enfin, on est, si le prix du sucre et du cacao augmente, le reste augmente, quoi. Enfin, les produits augmentent, ça me paraît à peu près normal. Après, pour ce qui est
Si le prix du sucre augmente, sachant que dans une canette de Coca de 33 centilitres, il y a 7 morceaux de sucre, forcément. Sûr.
Voilà. Et après, moi, ces produits-là, je suis d'accord. Il faut. Je sais qu'il y a un vrai problème d'alimentation générale dans la société et que ces produits sont néfastes.
Tu parles de quoi ? De qualité.
Ah pardon, de qualité de ce qu'on mange, on mange trop mal, oui,
d'accord,
voilà.
Ouais.
Mais j'ai toujours été contre la. Comment dire, les
injonctions ?
Oui, les injonctions morales de. Voilà, c'est bien si ça augmente, parce que comme ça, bah, les pauvres en boufferont moins de Nutella, quoi. En gros, c'est un peu ça qui me dérange dans la question qui est posée. Après, bien sûr, il faut manger moins de sucre, et le Coca, c'est pas bon, mais on le sait, quoi. On n'a pas besoin que le gouvernement nous le dise. Pour moi, on n'a pas besoin des injonctions.
Thierry Moreau. Alors, je vais peut-être un peu passer pour le rabat-joie de mes camarades, mais alors je suis d'accord avec vous sur une chose, c'est qu'effectivement une hausse des prix n'est jamais une bonne nouvelle, et c'est pas comme ça qu'on lutte de manière efficace contre les dangers du sucre. En revanche, le sucre est une drogue dure. Il faut le savoir, c'est un poison pernicieux, lent, présent partout, y compris dans les plats salés. On le sait, mais on ne le répète jamais assez. Alors
là, c'est hyper présent là, pour les produits dont on parle.
Tu es contre les injonctions. Le seul problème, c'est que et ça, je pense que c'est quelque chose qui va parler à Benjamin. Le gouvernement ne fait pas assez de prévention sur ces matières sanitaires. Aujourd'hui, on a 4 millions de personnes diabétiques en France. Si on continue sur ce train-là, ce sera 4,7 millions en 2027. Ouais. C'est un truc qui est absolument monstrueux. La prévention, la détection. Aujourd'hui, on met 9 à 12 ans à détecter un diabète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont diabétiques sans le savoir. Moi, je le suis depuis l'âge de 50 ans. C'est quelque chose de très pernicieux qui engendre ensuite une foultitude de décès. Alors, le nombre de décès par diabète, c'est très compliqué à savoir parce que c'est souvent des maladies cardiovasculaires. Donc, en fait, c'est des sous-maladies qui sont provoquées justement par le diabète. Donc, c'est très compliqué. Donc, je n'avancerai pas sur ces chiffres-là. Mais tout ça pour dire que, l'augmentation du prix n'est pas une bonne manière, effectivement, de lutter contre le diabète, mais en revanche, la prévention permettrait, si elle était bien faite, si le gouvernement mettait vraiment de l'argent là-dessus.
Moi, j'y crois pas.
Parfois, pas des injonctions.
En parlant de malbouffe et en parlant de produits extrêmement sucrés, parfois justement, je te parle de ce qui concerne la santé.
Oui.
Certains militent pour qu'on surtaxe. D'ailleurs, il y a des taxes déjà.
Sûr,
qu'on surtaxe les produits trop sucrés.
Comme
donc, qu'on augmente les prix.
Ce ne sera pas la seule solution.
Il n'y a pas besoin de surtaxer. Les industriels le font en même temps.
Sauf qu'ils le font pour un autre motif. Ils le font pour s'en mettre plein les poches. dans le cas des négociations.
La vérité, c'est que ça ne marche pas, la prévention. Tu vois bien que la prévention, on en a fait pour l'alcool, pour les cigarettes. La seule chose qui marche, c'est le portefeuille. C'est le portefeuille qui marche.
Donc
non, les photos. Juliette, c'est pas tout à fait
Juliette, mais dans ce cas-là,
c'est faux, Juliette. Non. Sur les paquets, les photos, par exemple, ont eu
un impact
très dissuasif.
Mais on a réussi à faire diminuer le nombre de chômeurs.
L'alternative de la cigarette électronique, ce qu'elle peut marcher quand même, c'est l'alternative de la cigarette électronique. Mais
pour avoir déjà traité le sujet dans Estelle Midi, malgré tout, la plupart des médecins et de ceux qui luttent contre le tabagisme disent que le prix, jouer sur les prix, c'est la meilleure des des solutions. Donc, Juliette, c'est bien que ça
augmente. Non, c'est pas bien, je suis anti-taxe, mais sinon on taxe tout ce qui nous fait du bien, quoi. C'est incroyable d'avoir cette vision du monde.
Ça ne te
fait
pas du bien. On peut pas punir les gens par le portefeuille. Non aux taxations, toujours socialement injustes.
Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la cigarette? On a taxé la cigarette à je sais pas combien, et là ils enlèvent les droits de douane sur la cigarette européenne, donc on va acheter nos cigarettes en Espagne et en Belgique, c'est super.
On n'enlève pas les droits de douane, mais on ne limite plus le nombre de paquets de cigarettes. Flambée des prix des produits sucrés, bonne ou mauvaise nouvelle, vous nous appelez au 32-16 comme le fait Denis. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est en Gironde.
On est en Gironde,
du côté de Talence.
Oui, tout à fait.
Bon, vous faites quoi dans la vie, Denis?
Je suis dans une compagnie d'assurance.
Très bien. Amateur de produits sucrés?
Pas spécialement, mais là, je fais des beignets parce que j'ai des amis demain.
Ah, bien. Beignets à quoi? Des beignets à quoi? Beignets au sucre?
De fleurs d'acacia. Il faut du sucre, du rhum, du sucre.
Bon, la flambée des prix des produits sucrés, c'est une mauvaise nouvelle alors pour vous?
Oui, bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, on l'a cherché. On a emmerdé les agriculteurs qui cultivaient de la betterave. On a plus, et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a son mérite.
Ouais, ce que dit Denis, il a raison. Ça se discute aussi, mais c'est vrai qu'on a interdit les pesticides, un certain nombre d'insecticides, pesticides, notamment sur la betterave, ce qui fait que tous les grands acteurs du sucre se sont désengagés de la France et aujourd'hui on importe notre sucre du Brésil. Il y a cette réalité-là
comme
aussi.
Sur tous les sujets, comme le lait, comme.
Oui, c'est valable pour pas mal de produits agricoles.
Le lait.
Oui, Denis, allez-y, Denis.
Oui, les cerises aussi, on importe. Moi, je fais mes courses, je vais dans les supermarchés, et je vois bien que les fruits, les légumes, ils viennent d'ailleurs, quoi.
Et bien sûr que ça a un impact, ça a forcément un impact après sur le portefeuille, mais c'est le choix de société, hein, il faut faire ses choix. Moi, ce ne serait pas mon choix. Mais après, voilà, il y en a qui pensent qu'effectivement, il faut sacrifier notre mode de vie et notre. Allez-y,
Denis. Tu penses quoi? Ça change quoi? Vous faites venir le sucre du Brésil, vous le payez un peu plus cher, vous en consommez autant.
Totalement d'accord. C'est absolument aberrant. On fait venir du lait d'Afrique du Sud avec des cargos du bout du monde, c'est absolument délirant, mais écoutez, apparemment c'est écologique, donc
merci à Denis d'avoir été avec nous. Denis qui nous appelait depuis le département de la Gironde, on était du côté de Talence. Vous continuez à nous appeler au 32-16, flambée des prix des produits sucrés, bonne ou mauvaise nouvelle. Peut-être quelques messages sur le Direct Studio.
Deux messages, d'abord celui de Pierre qui nous dit: très mauvaise nouvelle, surtout pour mes enfants, pour moi aussi. Ce qui est bien, c'est que j'en mangerai moins, mon dentiste travaillera moins, c'est bon pour mon portefeuille. Et puis Patrick qui nous dit: désolé, mais les pauvres n'achètent plus de Nutella, de Coca trop cher depuis bien longtemps. Ils achètent des sous-marques avec encore plus de sucre.
C'est vrai.
Pas faux. Grégory Carré est avec nous. Bonjour Grégory Carré.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC. Que choisir? Elle vient d'où, cette flambée des prix des produits sucrés?
Effectivement, ça peut s'expliquer par une augmentation du cours du sucre. Alors, augmentation qui date de la fin de l'année 2023, avec au mois de novembre un cours du sucre qui était à son plus haut. Mmh. Et puis, ben, quelques mois après, il y avait les négociations commerciales. Vous savez, c'est le moment où la grande distribution discute avec les producteurs, mmh, les transformateurs, et eux, ils ont essayé de faire passer, ils ont demandé des hausses de prix justement pour faire face à cette augmentation du cours du sucre, qui était vraiment à son sommet au mois de novembre. Mais depuis, ça s'est plutôt résorbé. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, en rayon, on constate, on a la conséquence finalement d'un cours au plus haut au mois de novembre, de négociations commerciales en début d'année 2024, et maintenant une petite répercussion, dans les prix en rayon.
Ces négociations, elles se déroulent combien de fois par an? C'est une fois par an?
Oui,
deux fois par an. Une fois par an.
C'est une fois par an. Et là,
donc le gouvernement souhaiterait qu'il y en ait plus souvent, justement, pour éviter ce genre d'effet.
Et donc là, on est parti pour au moins un an avec ces prix-là.
Oui, alors il y a quand même des fois des causes de revoyure. Hein, c'est-à-dire que quand il y a des cours de matières premières qui augmentent, ça va être répercuté tous les mois en rayon. C'est ce qu'on a observé en 2022 jusqu'au début 2023. Mmh. Et là, effectivement, il est possible que ce soit la conséquence de cette hausse. Alors, mais cette hausse, effectivement, c'était au mois de novembre. Hein, depuis, les cours du sucre ont bien descendu. Alors déjà, il y a effectivement des raisons météorologiques. En France, les betteraviers, il y a des petits problèmes de jaunisse. L'Inde, qui est un très gros exportateur, avait dit qu'il allait conserver sa production pour son marché domestique. Et là-dessus, les spéculateurs sont venus jouer. Ça a fait flamber le cours. Le Brésil, lui, a dit, moi, j'ai beaucoup de stock et je vais avoir beaucoup de stock. Mais malgré tout, les cours se sont enflammés. Les cours mondiaux.
Grégory, ça fait un moment qu'on parle de la hausse des prix, forcément, mais notamment de ce type de produits sucrés, les barres chocolatées, les produits, les céréales, pas les céréales, mais aussi les céréales du matin, mais qui sont ultra transformées, etc. Est-ce que depuis la hausse des prix, le consommateur a fait des arbitrages? Est-ce qu'on, je vous posais la question directement, est-ce qu'on achète moins de Coca, moins de Nutella, moins de Kinder, moins de biscuits lus, etc.?
Alors effectivement, le consommateur tout à l'heure, votre auditeur a parlé de sous-marques.
Denis, alors.
Les distributeurs vont vous dire, ce sont les marques de distributeurs. Et ce qui s'est passé depuis deux ans, maintenant depuis plus de deux ans, à partir de 2022, les denrées alimentaires ont augmenté de 25%. Aujourd'hui, un produit qui coûtait 1 euro, vous l'achetez aujourd'hui 1,25 €. Personne n'a eu des revenus qu'on permet effectivement de suivre cette augmentation des cours des produits alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait les consommateurs? Ils ont adapté leur panier, donc ils ont sorti des produits chers. Il y a des denrées alimentaires qui s'achètent moins. Des fruits et légumes, par exemple, parce que les fruits et légumes sont chers.
C'est dommage.
Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la santé. Ouais. Et puis, dans la gamme des produits que vous aviez l'habitude d'acheter, on a privilégié les marques distributeurs aux marques nationales. Alors, certaines se sont quand même bien maintenues. Ferrero, c'est quand même un leader, c'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires du sucre. Ferrero, lui, il a plutôt il s'en est pas trop mal tiré, mais dans le secteur des boissons, effectivement, ce qu'on a constaté, les boissons sucrées, c'est pas indispensable, ce qu'on a constaté, c'est que les gens, surtout les gens qui étaient vraiment avec un portefeuille tendu, les ont sortis du panier. Donc les vendeurs de boissons ont constaté qu'il y avait un marché qui était plutôt des parts de marché qui diminuaient, des volumes d'achat. Eux, ils ont plutôt moins limité dans un premier temps, moins augmenté leur prix dans un premier temps, et ça c'était vrai jusqu'à l'année dernière. Et puis ce qu'ils ont expliqué en fin d'année, ils ont dit écoutez, augmentation du cours du sucre, augmentation du coût de l'énergie, parce que c'est aussi une énergie qui consomme, c'est une industrie qui consomme énormément d'énergie. Donc à ce moment-là, il y avait encore un coût de l'énergie qui était assez élevé. Ils ont dit on va demander des répercussions, des prix en rayon, quitte à perdre des parts de marché, des volumes de vente. Voilà.
Donc une question plus générale, Grégory Carré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Dans de telles situations, c'est pas la première fois qu'on connaît une période d'inflation en France, de hausse des prix, notamment des prix de l'alimentaire. Est-ce que le consommateur, ça peut amener à changer la consommation, le mode alimentaire d'un consommateur? Est-ce qu'on change sa manière de consommer? C'est-à-dire qu'on va aller, au lieu de boire une boisson sucrée, on va aller vers de l'eau. Au lieu d'acheter d'une pâte chocolatée, je sais pas moi, on va acheter un produit plus sain, par exemple, des légumes, je sais pas, des pâtes. Mais ou alors, est-ce qu'on se dirige, on trouve des subterfuges et on va vers les sous-marques?
Alors un peu des deux. Un peu des deux. C'est quand même une hausse qui est assez inédite. Hein. Ce qu'on a observé depuis début 2022, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis les années 70. Et le contexte était différent. Dans les années 70, les salaires suivaient quand même la hausse des prix. Hein. Les gens qui ont vécu dans les années 70, il y avait une inflation qui était énorme, mais malgré tout, au début des années 80, ils se sont pas trouvés plus endettés qu'au début des années 70. Là, le contexte est différent. Les salaires, les rentes, les retraites n'ont pas suivi l'inflation dans un court terme, dans le court terme, et donc les consommateurs effectivement ont été obligés de faire des arbitrages. En plus, il n'y a pas que l'alimentaire qui a augmenté. Hein. Il y a d'abord c'est l'énergie qui avait augmenté. Par exemple, l'électricité, les carburants. Le gaz, l'électricité a même encore augmenté là après la fin du bouclier au mois de février. Donc là, effectivement, on est obligé de faire des arbitrages. Et puis maintenant, il y a tout un nouveau. Je suis désolé, on va pas donner des bonnes nouvelles. Hein, faut quand même profiter du week-end. Mais ouais. il y a un nouveau volet de hausse qui est en train de passer. Ce sont les assurances. Les assurances habitation, parce qu'il y a effectivement des dommages, mais les assurances santé, il y a des assurances santé.
Après les mutuelles, oui.
Voilà, par exemple, pour les retraités, c'est le premier poste budgétaire, hein, pour les retraités. Ouais. C'est 9% de hausse sur un an. 9% de hausse. Donc c'est quelque chose de gigantesque, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans son équation. Et comme, bien sûr, les revenus ne suivent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des arbitrages, vous allez rogner, effectivement, vous allez achalander différemment votre panier alimentaire, mais vous allez aussi rogner dans d'autres dépenses.
Mais je vous pose la question directement, Grégory Carré. C'est celle qu'on pose. La flambée des prix des produits sucrés. Oui. Est-ce que ça peut être une bonne nouvelle en matière de vous comprenez ce que je veux dire, en matière de qualité alimentaire?
Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle, hein, mais de toute façon, alors ça c'est une autre problématique. C'est une autre problématique. Quand on regarde tous les indices de santé publique, de consommation, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'obésité en France, elle augmente. La jeune génération a un taux d'obésité qui n'a jamais été observé dans les cohortes précédentes. On mange effectivement trop de produits trop transformés, trop de produits sucrés. Je ne sais pas si la flambée va être la réponse, parce que une des conséquences quand même de l'inflation alimentaire de 2022-2023, c'est un recul de la consommation dans les fruits et légumes. Et la junk food, déséquilibrée, elle reste, elle, très abordable. Et effectivement, vous pouvez aller dans des marques de distributeurs, des marques premier prix, avec des taux de sucre, des taux de transformation, une composition qui est assez mystérieuse, pour des prix qui sont tout à fait raisonnables. Et les gens ont, les volumes d'achat qui ont reculé, c'est le poisson, c'est la viande, parce que c'était très très cher.
Ouais, donc à la limite, c'est même on constate que c'est même l'inverse ce qu'il devrait se produire, en tout cas ce qu'on aimerait qu'il se produise, c'est-à-dire que les bons produits, j'allais dire, ont augmenté de telle sorte que on mange peut-être plus mal aujourd'hui qu'on mangeait hier, quoi.
Ça, effectivement, hein, ces deux dernières années, c'est quelque chose qui augmente.
Benjamin.
De toute façon, ouais.
L'occurrence,
Benjamin Hamar.
Bien évidemment, de toute façon, c'est clair que c'est pas par une explosion des prix qu'on va remplacer effectivement des mesures de prévention, ça c'est certain. Par rapport à ce que dit M. Carré, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, il s'est passé quelque chose en 1983 et les salaires ont cessé d'être indexés sur les prix, ils ont cessé d'être indexés sur l'inflation. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un décrochage. C'est pour ça que dans les années 70, effectivement, quand les prix augmentaient, les salaires suivaient. C'était la fameuse échelle mobile des salaires. Que certains, dont moi, on présente comme une possibilité pour les problématiques de pouvoir d'achat. Et c'est toujours possible en Belgique, ça existe toujours en Belgique, et à ce que je sache, eh bien, l'économie belge ne s'est pas effondrée. Voilà.
Juliette ?
Non, mais pour revenir sur les solutions, en tout cas, face à ça, cette montée de l'obésité qui est un réel problème. Mais moi, je ne crois pas à la prévention et à l'argent qu'on met dans la prévention.
Bah, on fait
tout
quoi
simplement, je trouve.
Attends, on fait pas de prévention, on n'augmente pas les prix, on fait quoi?
Le problème, c'est que effectivement, ceux qui mangent le plus mal, c'est ceux qui ont le moins d'argent. Ouais. Ça, on le sait.
Ah, c'est sûr.
Donc ça, c'est un vrai problème. La prévention, ça fait combien Ça fait 10 ans qu'il y a les fruits et les légumes 5 fois par jour, etc. Ça, et ça explose, quoi. Donc moi qu'on vienne m'amener la preuve que toutes ces campagnes de prévention à coups de millions, elles servent à quelque chose en fait.
Enfin, rappelons quand même qu'il y a pas longtemps, il y avait l'idée de faire, alors c'était aux États-Unis je crois d'ailleurs, où des médecins prescrivaient des fruits et légumes. Voilà, on en était arrivé là. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait les gens ils ont pas de pognon et la solution derrière c'est de faire prescrire par des médecins des fruits et légumes. Alors, la question c'est une question de répartition des richesses.
Merci Grégory Carré d'avoir été avec nous, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que choisir. Quelques messages sur Direct Studio, Alfred.
Oui, Antoine qui nous écrit en colère. Hein. On profite de l'addiction des Français pour se faire de l'argent, ça nous pourrit la vie. Et puis Seb qui nous dit si le sucre est si dangereux que ça, pourquoi ne pas interdire tout simplement les produits trop sucrés.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les 18 et 19 mai à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, les 18 et 19 mai avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
France 2. Le retour du plus grand show musical au monde, l'Eurovision. Cette année, Slimane portera les couleurs de la France lors de la grande finale de l'Eurovision avec sa chanson « Mon amour ». Ce soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. 7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures enceintes.